France Culture.
Le journal est signé Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Après Bruno Retailleau, Gérald Darmanin brandit la menace d'une démission du gouvernement. Le ministre de la Justice veut interdire le port du voile dans toutes les compétitions sportives, ce que contestent d'autres ministres. On fait le point avec Antoine Marette dans un instant. L'économie française ralentit, à peine 0,1% de croissance au premier trimestre selon l'INSEE. L'inquiétude grandit avec les restrictions budgétaires et la guerre commerciale menée par les États-Unis. Plus de 400 morts dans la bande de Gaza selon le Hamas. Israël a rompu la trêve la nuit dernière, sans doute pour des raisons de politique intérieure. L'analyse de notre correspondant à Jérusalem, Thibault Lefebvre. La culture et la musique américaine face à Donald Trump qui multiplie les interdictions. C'est un dossier signé Louis-Valentin Lopez à retrouver à la fin de cette édition. Le gouvernement de François Bayrou traverse une nouvelle zone de turbulence. Il y a désormais deux poids lourds de son équipe qui menacent plus ou moins ouvertement de démissionner. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, prêt à partir si sa ligne de fermeté vis-à-vis de l'Algérie était remise en cause. Et c'est nouveau, le ministre de la Justice Gérald Darmanin, qui veut interdire le port du voile dans toutes les compétitions sportives. Antoine Marette, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Gérald Darmanin a décidé d'attaquer ses collègues ministres plutôt accommodant avec le voile dans le sport.
Oui, jusqu'à ce matin, il y avait clairement deux lignes au sein du gouvernement sur cette question. D'abord les anti-voiles, avec à leur tête le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, mais aussi Bruno Retailleau ou encore la ministre de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Berger, qui a rappelé tout à l'heure la position officielle du gouvernement devant les députés.
La ligne politique, elle est claire. La ligne politique, c'est de ne jamais transiger sur les valeurs et sur les principes républicains. La ligne politique, elle est claire. C'est d'assumer un principe de laïcité. Un principe de laïcité qui est un principe de liberté et jamais un principe de séparation. Un principe de laïcité que tous les membres du gouvernement défendent.
Sauf que tous les membres du gouvernement n'ont pas la même idée de ce principe de laïcité. D'où cette deuxième ligne sur cette question. À l'éducation, Elisabeth Borne estimait hier que c'était aux fédérations sportives de définir leur règlement intérieur. Quant à la ministre des Sports, Marie Barzac, elle a exprimé à plusieurs reprises ses réserves sur une interdiction du voile dans les compétitions sportives, mettant en garde contre les confusions et les amalgames entre le port du voile et la radicalisation dans le sport. Mais ça, c'était avant le recadrement de François Bayrou. Ce matin, le Premier ministre a convoqué les ministres en désaccord sur ce sujet et il a rappelé la ligne du gouvernement. Interdiction des signes religieux dans l'ensemble des compétitions sportives, y compris au niveau amateur.
Décryptage signé Antoine Marette. François Bayrou a répété tout à l'heure, en conscience, selon ses termes, qu'un retour à la retraite à 62 ans n'était pas possible. Devant les députés, lors de la séance des questions au gouvernement, le Premier ministre a une nouvelle fois invoqué l'ampleur du déficit du système des retraites, 6,6 milliards d'euros cette année, 15 milliards à l'horizon 2030, selon les chiffres de la Cour des comptes. Les syndicats reprochent à François Bayrou d'avoir trahi sa parole, lui qui avait accepté de renégocier la réforme de 2023 qui a porté l'âge de départ à 64 ans. Selon le Monde et l'AFP, la CGT propose à ses instances de quitter le conclave sur les retraites qui doit réunir les partenaires sociaux jusqu'en mai. Ce débat sur les retraites intervient dans un climat tendu pour l'économie française. L'INSEE revoit à la baisse sa prévision de croissance pour le premier trimestre de cette année. La semaine dernière, la Banque de France avait déjà acté ce ralentissement avec une croissance de 0,7% envisagée en 2025 au lieu de 0,9% initialement. Bonsoir Laura Dulieu.
Bonsoir.
L'INSEE prévoit, elle, un tout petit 0,1% pour les trois premiers mois de l'année.
Oui, 0,1% au lieu de 0,2% prévu pour ce trimestre après une année 2024 où la croissance avait plutôt bien résisté à 1,1%. Sauf que, souligne l'INSEE, la France a mis plus de temps que ses voisins européens à mettre en place des mesures budgétaires pour réduire le déficit public. De quoi contribuer au ralentissement prévu de l'économie, même si les ménages devraient être épargnés, que ce soit en termes de pouvoir d'achat ou de consommation, notamment grâce à l'inflation qui resterait faible. Elle était à 0,8% en février, et ce alors que les revenus sont indexés sur la hausse passée des prix. Pour autant, pas de quoi donner une grande confiance ni aux ménages qui continuent de beaucoup épargner, ni aux entreprises qui, pour la plupart, n'envisagent pas d'augmenter leurs investissements. L'INSEE souligne aussi les conséquences de la loi spéciale restée en vigueur 6 semaines pour permettre au gouvernement de légiférer en l'absence de budget 2025 voté. Elle a réduit les dépenses de l'État au minimum pendant cette période. Du côté du marché du travail, ça ne va pas très fort non plus. 90 000 emplois ont été détruits en 2024. L'INSEE estime que 50 000 supplémentaires seront supprimés lors de ce premier semestre, de quoi pousser le taux de chômage à 7,6% mi-2025, malgré les créations d'emplois non salariés. Toutes ces prévisions sont pour autant soumises à plusieurs aléas, prévient l'INSEE, dont les prévisions ne vont pas plus loin que le mois de juin. Des aléas au premier rang desquels une situation internationale particulièrement mouvante, avec l'oscillation américaine sur les droits de douane et dont la hausse mettrait un coup de frein au commerce mondial.
Explication signée Laura Dulieu. Il n'y a plus de jeunes migrants à la Gaîté Lyrique à Paris. Les quelques centaines d'exilés qui occupaient depuis 3 mois le lieu culturel ont été évacués tôt ce matin. Opération musclée à coups de matraques et de gaz lacrymogènes. Les forces de l'ordre se sont heurtées à plusieurs dizaines de militants associatifs. Bilan 9 blessés légers et 46 interpellations. Les jeunes migrants affirment être des mineurs isolés. Ils réclament la protection de la France. Très peu ont accepté les propositions de relogement des autorités. Jeanne Serrin, bonsoir.
Bonsoir.
Dans cette affaire de la Gaîté Lyrique, Jeanne, le cœur du problème est de savoir désormais à qui il revient de prendre en charge ces étrangers.
Reprenons la procédure. Lorsqu'un jeune étranger arrive en France et qu'il déclare être mineur et seul, il dépend de la protection de l'enfance et donc du département. L'aide sociale à l'enfance procède à l'évaluation de sa minorité. Si la minorité est reconnue, l'ASE le prendra en charge jusqu'à ses 18 ans. Mais si cette minorité n'est pas reconnue, là les choses se compliquent. Car dans ce cas, les jeunes migrants peuvent déposer un recours contre la décision devant le juge des enfants. Mais ce recours n'est pas suspensif. C'est-à-dire que le temps que le juge statue, la décision du département s'applique et dans l'intervalle, le jeune ne bénéficie d'aucune prise en charge.
Mais si cette personne n'est pas considérée comme mineure, Jeanne, elle peut bénéficier des places d'hébergement réservées aux majeurs, aux 115 par exemple.
Vous le dites Stanislas, ces places sont réservées aux majeurs. Donc quand ces jeunes migrants arrivent aux 115, on leur répond « Nous ne pouvons pas vous accueillir car vous affirmez être mineur ». Cette situation est en tout cas rapportée par plusieurs associations comme Utopia 56 et la CIMAD. Elles dénoncent un vide juridique qui contraint ces jeunes migrants à être expulsés de lieu en lieu jusqu'à la décision du juge des enfants, parfois 10 mois plus tard. Et selon Utopia 56, toujours, le juge reconnaît la minorité dans 60% des cas. Alors face à cette situation, la France a été condamnée en 2023 pour non-respect de la Convention internationale des droits de l'enfant. De nombreux acteurs se mobilisent donc pour reconnaître une présomption de minorité et ainsi assurer une prise en charge le temps de la décision du juge. Dernière personne en date, Claire Hédon, la défenseure des droits.
Jeanne Serrin, merci pour cette analyse. Israël a rompu dans le sang la trêve à Gaza la nuit dernière. Des bombardements intensifs sur l'enclave palestinienne qui ont fait plus de 400 morts selon le ministère de la Santé gazaoui, contrôlé par le Hamas. Il n'y a pas d'autre choix que la reprise des opérations militaires pour ramener les otages, affirme l'État hébreu. 58 otages au total, dont 34 seraient morts selon l'armée israélienne. Israël qui dit avoir mené ses frappes en totale coordination avec les États-Unis. On retrouve à Jérusalem Thibault Lefebvre. Thibault, derrière cette nouvelle offensive militaire à Gaza, il y a des considérations de politique intérieure.
Il est parti après la signature de l'accord de cessez-le-feu et il revient donc le jour de la rupture de la trêve. L'ancien ministre de la Sécurité intérieure, Itamar Ben-Gvir, défend des positions jusqu'au boutiste. Il veut éradiquer l'organisation islamiste par la force, expulser les Gazaouis de l'enclave et il réintégrera donc le gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou cette semaine. Une manœuvre politique qui laisse penser aux opposants du Premier ministre qu'il joue avec la vie des otages et utilise la guerre comme un levier pour conserver le pouvoir. Benjamin Netanyahou a encore 13 jours pour faire voter le budget par une majorité de députés et il pourrait avoir besoin des voix du parti d'Itamar Ben-Gvir si ses alliés ultra-orthodoxes l'abandonnaient à la dernière minute. Le chef du gouvernement doit s'exprimer ce soir dans une allocution télévisée. Il va sans beaucoup de surprise défendre l'idée que le Hamas ne peut être éradiqué que par la force, argument qui ne convainc plus grand monde en Israël. Seulement 8 otages sur les 251 enlevés le 7 7 octobre ont été sauvés suite à des interventions de l'armée israélienne. Une quarantaine sont morts en détention.
Thibault Lefebvre, correspondant de France Culture à Jérusalem. L'avenir de l'Ukraine tient peut-être à un coup de fil ce soir. Donald Trump a téléphoné à Vladimir Poutine cet après-midi. La conversation vient de s'achever selon les médias russes, sans plus de précision à ce stade. Le président américain veut convaincre son homologue russe d'accepter une trêve de 30 jours dans le conflit ukrainien. La semaine dernière, le maître du Kremlin n'avait pas refusé le principe de cette trêve, mais les conditions qu'il avait posées rendaient impossible la mise en place rapide d'un cessez-le-feu. La Russie qui n'est pas en guerre avec l'Union européenne, mais cela ne l'empêche pas de mener des opérations massives de désinformation et de manipulation. Constat établi par le Service européen d'action extérieure de l'UE, qui publiera demain son rapport annuel sur les cybermenaces. Il pointe deux pays, la Chine et surtout la Russie de Poutine. Les méthodes employées deviennent tellement sophistiquées que Bruxelles les qualifie d'arsenal numérique massif pour déstabiliser les démocraties occidentales. Fabien Cazou.
À chaque région du monde, sa plateforme de désinformation russe. En Europe, l'opération Doppelganger, qui signifie sosie en allemand, a consisté pendant 2 ans à reprendre les codes graphiques de grands journaux en ligne, Le Monde, Le Figaro ou encore Le Parisien, et à diffuser des articles truffés de propagande russe ou de fausses informations de nature à alimenter toutes sortes de polémiques en France et en Europe. En Afrique, c'est une pseudo-agence de presse baptisée African Initiative qui surfe sur le sentiment anticolonial vis-à-vis des Occidentaux, tout en accompagnant l'expansionnisme russe en Afrique, économique et militaire. Un autre procédé, baptisé par les Européens « False Façade », est également dans le viseur de l'Union. Il s'agit en fait d'un réseau de 23 sites internet qui réécrivent des articles, des dépêches de presse, qui sont ensuite repris sur des sites officiels russes, une sorte de machine à laver en ligne, destinée à diffuser les narratifs russes, y compris en Ukraine, grâce à un autre pseudo-portail d'information, Portal Combat, qui lui regroupe 193 sites visant à saper la motivation de Kiev et de ses alliés européens au moyen de contenus ouvertement défaitistes et pro-russes, souvent très bien référencés dans les moteurs de recherche.
Fabien Cazot, correspondant à Bruxelles. La Hongrie de Viktor Orban n'en finit plus de marcher dans les pas de Vladimir Poutine. Nouvelle illustration aujourd'hui, le Parlement hongrois a adopté une loi pour bannir la marche des fiertés, la Gay Pride de Budapest. Motif invoqué, le rassemblement serait contraire à une loi interdisant la propagande LGBT à destination des mineurs. Florence Labruyère nous appelle de Budapest.
Oui, bonsoir. Alors, les manifestants ont protesté, environ 2 à 3 000 personnes étaient devant la place du Parlement cet après-midi, juste après le vote de la loi, pour protester contre cette loi juge honteuse. Et là, ils ont quitté la place du Parlement et se dirigent vers un pont de Budapest, au bord du Danube. Ils vont occuper ce pont spontanément. Ils sont en train de scander « Nous ne céderons pas ». Nous serons là le 28 juin, car tous les manifestants à qui j'ai parlé ont quand même l'intention de participer à la marche des fiertés le 28 juin prochain, même si le gouvernement a décrété qu'il y aurait de lourdes sanctions qui déciderait 500 euros d'amende par personne. Le gouvernement compte aussi mettre en place un logiciel de reconnaissance faciale acheté à la Chine. Et un député d'opposition qui a fait un discours très applaudi et a dit « Écoutez, cette loi, ce n'est pas seulement contre la communauté LGBT+, le gouvernement va sans doute s'attaquer à d'autres secteurs de la société. » Et d'ailleurs, le Premier ministre Viktor Orban l'a dit il y a 2 jours. Il a dit qu'il allait éliminer ceux qui critiquaient son pouvoir, les juges, les journalistes, la société civile et les ONG. Et donc, effectivement, ce n'est pas un petit pas vers la dictature, c'est un énorme saut vers la dictature, comme l'a dit un député d'opposition ce soir.
Merci Florence Labruyère en direct de Budapest et pardon pour cette liaison quelque peu capricieuse. Nous évoquions tout à l'heure les difficultés de l'économie française qui aboutissent à des restrictions budgétaires. Au Royaume-Uni aussi, le gouvernement travailliste taille dans les dépenses au prix de la polémique au sein même de sa majorité. La ministre britannique des Retraites et du Travail a annoncé aujourd'hui une réforme des allocations pour les personnes en incapacité de travailler, handicapées ou malades. Emeline Vin nous appelle de Londres.
La ministre du Travail, Liz Kendall, pose le constat, 3 millions de Britanniques en incapacité de travailler, soit une facture de 80 milliards d'euros par an, avec une tendance à la hausse depuis la pandémie.
Les demandes d'allocations chez les jeunes ont augmenté de 150% et pour des raisons de santé mentale, plus 190%. Ce n'est pas tenable sur le long terme.
Parmi les mesures, quelques assouplissements, moins de contrôle pour les affections longue durée, pas de baisse de la pension d'invalidité, mais aussi des restrictions. Éligibilité réduite pour l'allocation adulte handicapé, réduction de certaines aides pour les nouveaux demandeurs et hausse de l'âge minimum pour pousser davantage de jeunes vers l'emploi. Les associations dénoncent ces plans et craignent une hausse de la pauvreté chez les malades chroniques et les invalides. Certains, dans la majorité, rejettent une politique pas vraiment travailliste. Debbie Abrams, députée du Labour.
Il s'agit de la plus forte coupe dans les aides sociales depuis 2015. Il y a d'autres façons plus humaines d'équilibrer les comptes, sans le faire sur le dos des personnes malades ou handicapées.
Le paquet de mesures devrait permettre d'économiser 6 milliards d'euros.
Emeline Vin, correspondante au Royaume-Uni. Quel avenir pour la culture et la musique sous le mandat de Donald Trump? C'est la question que pose le dossier de ce journal ce soir. En poste officiellement depuis janvier, le président américain a multiplié, dès son arrivée au pouvoir, les décisions controversées dans presque tous les domaines, qu'il s'agisse de la politique intérieure ou extérieure, de l'éducation et donc de la culture. Louis-Valentin Lopez, bonsoir.
Bonsoir Stanislas Wozak.
De plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer des décisions qui menacent directement certaines initiatives.
Oui, il y a d'abord ce programme qui vise à promouvoir les compositeurs afro-américains, Emerging Black Composers. Le projet est piloté par l'orchestre et le conservatoire de San Francisco et il a fait les frais de l'administration Trump, suspendu après une note du département de l'éducation américain. Ce dernier pousse les écoles à renoncer au programme consacré à la diversité sous peine de perdre leur financement. Trevor Weston est le premier lauréat du programme créé en 2021.
Je crains qu'à l'avenir, les compositeurs afro-américains n'aient plus les mêmes opportunités. Le programme aurait dû s'étaler sur 10 ans et il avait pour objectif de promouvoir ces compositeurs dont les œuvres sont rarement jouées par les meilleurs orchestres des États-Unis. Ce projet leur donnait la possibilité de diffuser leur musique.
Nous sommes tous inquiets, souffle Trevor Weston, qui a un message pour tous les compositeurs afro-américains qui craignent les décisions de l'administration Trump.
Les choses n'ont pas toujours été faciles pour la communauté afro-américaine. Et en période de détresse ou de violence, nous avons toujours utilisé la musique pour répondre et pour nous rassembler. À l'heure où l'on parle, le projet Emerging Black Composers est suspendu. Oui, mais ça ne signifie pas que vous ne pouvez plus écrire de musique. Continuez de composer. Essayez de vous rapprocher d'amis artistes pour qu'ils jouent vos œuvres. Trouvez d'autres moyens de présenter votre musique au public.
Louis-Valentin, des artistes inquiets aussi de ce qu'il se passe au Kennedy Center.
Le Kennedy Center, c'est ce centre culturel emblématique de Washington. Donald Trump s'y est rendu pas plus tard qu'hier. Il faut dire que c'est un peu le nouveau patron des lieux. En février, il a pris la tête de l'institution après avoir évincé l'ancienne direction, dont Trump jugeait la programmation, je cite, « trop woke ». Il a nommé des proches au conseil d'administration et souhaite instaurer, je cite encore, « un âge d'or des arts et de la culture ».
Et les déprogrammations s'enchaînent.
À commencer par la célèbre comédie musicale Hamilton. Nous refusons d'être associés à ce qui est devenu le Trump Kennedy Center, a déclaré le créateur du spectacle, Lin-Manuel Miranda. Mais il y a aussi des annulations à contre-cœur, le Gay Men's Chorus de Washington, par exemple, un chœur composé d'hommes gays. La date de leur représentation a disparu du jour au lendemain du site du Kennedy Center, sans explication.
Mais au-delà de la politique culturelle, Louis-Valentin, la politique extérieure de Trump provoque des remous.
Notamment sa position vis-à-vis de l'Ukraine et la façon dont il a traité son président Volodymyr Zelensky. Le pianiste de jazz Brad Meldo s'est dit horrifié. Christian Tetzlaff, violoniste, lui, annule sa tournée aux États-Unis. Quant au violoncelliste français Jean-Guyenne Keras, il maintient ses 5 concerts, mais il reversera les bénéfices à la fondation du président Zelensky, United 24.
C'est la ligne de crête que moi j'ai trouvée, qui était de dire j'y vais, je joue, je suis en échange avec le public américain, mais cet argent servira à la défense de l'Ukraine, ou en tout cas à soutenir l'Ukraine. Je dirais même pas que j'ai l'espoir que cette goutte d'eau puisse devenir un battement d'aile de papillon. Mais voilà, je crois que chacun, il faut simplement faire ce qui nous semble juste avec ce qu'on a.
Les prises de parole publiques des artistes, ceci dit, restent encore peu nombreuses. D'après ceux que nous avons contactés, cela s'expliquerait par un mélange de tétanie, d'attentisme et d'autocensure.
La politique culturelle de Donald Trump, un dossier signé Louis-Valentin Lopez. Un mot du temps demain qui aura des accents printaniers, soleil et douceur au programme, sauf sur les régions méditerranéennes où il pleuvra sur le Languedoc-Roussillon. Demain matin, toujours la fraîcheur avec des gelées à l'est. L'après-midi, le thermomètre remonte de 13 à 18 degrés en général jusqu'à 22 degrés dans le sud-ouest. C'est la fin de ce journal. À la technique ce soir, il y avait Alexandre Dangue.